podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Terrain Basique. Mon nom est Tommy Godette et je suis quand même en très bonne compagnie. On peut regarder d'un bord, il y a Lompré. En dessous, il y a Emmanuel côté Séguin. On a le Sphinx qui est là-bas et on est rejoint par un invité particulier, un animateur du podcast La Gueule du Dragon. Un gros joueur de Commander, on m'a dit, un certain mystérieux Jean-Simon Buy. Est-ce que tu peux me dire le plaisir du chocolat pur?
Le plaisir du chocolat pur.
Ah, il était mieux tantôt. T'avais mis comme des hormones. Là. Mais là, t'étais trop heureux. Hein? Trop euphorique, finalement.
Voilà.
Le rêve, hein? Tu peux rencontrer Lompré, mettre un visage sur le personnage. Sinon, ben, on est en train d'écouter en background Tradition ici oblige. Witcher 3. C'est qui a choisi ça?
C'est moi, ça.
Ah ouais, hein? T'es un
bon
fan de Witcher 3?
Oui, je suis un gros joueur de RPG en jeux vidéo, notamment des single player, évidemment tout ce qui est Elder Scrolls. Witcher 3, ça a été un de mes gros coups de cœur des dernières années, en raison de l'univers aussi qui est plus sérieux, où est-ce que les choix ont plus de conséquences, où est-ce que c'est moins tranché, blanc, noir, plus gris un peu. C'est ce que j'essaie d'amener aussi dans mes campagnes de jeux de rôle.
OK. Qu'est-ce que tu fais là, Emmanuel?
Je pointe les livres de Witcher qui sont en arrière de moi.
Oui, juste au-dessus de sa tête.
C'est un excellent jeu.
Il y a une bonne tête, là.
Je l'ai installé sur ma Switch, Witcher 3, puis après comme 4 heures de temps, j'ai finalement tué un griffon. Puis... Fait que là, vous me dites qu'il faut que je persévère. Parce qu'à
écoute,
date,
t'en as encore pour 150 heures.
Okay.
Oh, tabarnak.
C'est un long run.
Au moins, le menu fait que tu peux arrêter de jouer pendant 2 semaines, tu peux start, puis tu vois l'émission où il faut que t'ailles. C'est un des gros problèmes des jeux vidéo modernes, je trouve. C'est rendu comme une job à temps partiel de jouer à ça. Là, tu peux pas arrêter pendant 3 jours parce que tu reviens, t'es comme tout perdu. C'est ça, c'est moi qui ai raison avec cette opinion-là. Mais anyway, on va parler un petit peu de tout, hein, j'ai l'impression, parce que notre invité n'est pas seulement un animateur de podcast sur des jeux de rôle, mais aussi un joueur de Magic. Depuis quand tu joues à Magic, dis-nous tout.
C'est très récent, honnêtement. J'ai commencé en 2016. C'est un de mes oncles qui m'a initié à ça, complètement par hasard.
Et donc, cool, ton oncle.
Fête du jour de l'an 2016, il se met à me jaser de tout ça. Il dit oui, je joue à Magic. J'avais déjà entendu parler de Magic. Puis il m'a dit ben, on fait des games toutes les semaines de Commander. Je peux te prêter un deck. Puis, fait que, comme de fait, 2-3 semaines après, je suis allé la première fois. Puis il m'a passé un deck de base. Je pense que le premier deck qui m'a passé, c'est Teferi, le Commander 2015, si je ne me trompe pas. Le deck bleu avec Teferi, le Planeswalker. Quand il a commencé à faire des Commander, comme des Planeswalker comme Commander. Puis j'ai eu la piqûre rapidement, j'ai vraiment trippé parce que, bon, premièrement, j'étais un gars compétitif. Deuxièmement, j'étais un nerd, là, j'aime tout ce qui est fantastique, tout ça. Fait que naturellement, j'ai été attiré dans l'univers de Magic. Et quand je me mets dans quelque chose, j'ai tendance à obséder un peu. Fait que rapidement, je me suis bâti mes propres decks là, dans les mois qui ont suivi en dépensant un peu trop d'argent.
T'es-tu resté bleu pas mal? Parce que me semble, je t'écoute parler, là, tes premiers Counter Spells, t'as dû avoir les petits frissons dans les ovaires qui ont remonté.
Clairement. Oh, oui. Non, ma bleue, c'est pas mal ma couleur de prédilection, je te dirais. C'est ma couleur préférée, définitivement. Après ça, je te dirais noir, rouge, vert et blanc. Blanc et vert, en fait, là, dans l'ordre.
Dans cet ordre-là. On est pas mal pareil là-dessus, hein, mais moi, c'est plus comme noir, bleu, rouge ou noir, rouge, bleu. Grixis, c'est Team Nicole Beau, là.
Ouais, pas mal de même aussi, exactement. Là, c'est pas mal mon style de jeu. Puis c'est ça, comme je te dis, je suis assez compétitif. Fait que les decks que j'ai bâtis, des fois, plaisaient pas nécessairement. Remarque que la gang de mon oncle, tout ça, il y avait quand même des decks de bonne qualité qui pouvaient toffer la run. Mais quand j'ai bâti certains decks, là, ça a créé certaines chicanes autour de la table.
Arrête donc, toi, t'es venu briser l'espèce d'équilibre qu'il y avait dans le game group, là.
Ben, tu sais, c'est sûr que quand il y en a qui s'attendent à jouer plus casual, d'autres qui s'attendent à jouer plus compétitif, tu sais, Commander, c'est un fragile équilibre. Ben, tu sais, pour que tout te passe dans l'harmonie, faut que tout le monde ait un peu le même objectif, tu sais. Oui, il faut avoir du fun, mais si tout le monde est acharné comme compétiteur, ça peut devenir un peu rough on the edges de temps en temps.
Fait que là, t'es en train de me dire, je suis arrivé un petit peu trop compétitif, fait que là, le monde, il a fallu que tu baisses ton degré, genre.
Non, ben en fait, ils l'ont monté. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils étaient quand même compétitifs, eux autres aussi.
Tout le monde avec toi, c'est bon.
Fait que tout le monde a comme grimpé ses decks. Fait qu'on s'est ramassé avec des gros decks autour de la table. Puis bon, il y a aussi quelqu'un qui a bâti un deck de Feldagriff. Je sais pas si vous êtes familier avec la carte de Feldagriff un peu.
C'est l'hippopotame.
Ouais, c'est l'hippopotame volant, c'est ça. Fait que c'est bâti une espèce de deck amical où est-ce qu'il donnait des boons à tout le monde, des bébelles à tout le monde, le reste du monde s'entretuait.
Un deck de groupe de dynamique.
Hey, partage l'écran, Jason, montre-nous là le Feldagriff. C'est quand même assez compliqué, cette carte-là. Il y a quatre couleurs, genre.
Ouais.
Te rappelles-tu comment? J'ai tout le temps de la misère à le... Vous voyez bien l'écran en ce moment?
Dessus.
On va essayer de l'écrire comme ça pour le fun.
Non.
Non, hein?
Je pense pas qu'il y a des Y.
Je vais mettre hippo dans type. Donne-moi 5 secondes.
Ferme tes yeux et t'écris le nom de famille de Bénédicte machin. Là. Non, mais c'est parce que c'est Fel.
Pheldagriff.
On va y aller par Creature Type, ça va plus.
Je viens de te l'appeler, Jason.
Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'est pas là.
Il n'est pas là!
C'est un... non, parce que c'est dans le temps, ça s'appelait Summon Legend.
Ouais, ouais. Fait
que okay, là, suis-moi, là, suis-moi, vas-y, Jason. P-H-E-L-D-D-A-G-R-I-F.
Non, il était là.
2D.
Là.
2D.
Ah. On essaie d'abandonner. On est mieux d'abandonner.
Voilà, ouais, on va là.
Comme une bande dessinée. C'est comme une bande dessinée.
Sinon,
c'est 2D.
Simon, là, toi, tu joues Commander plutôt ou t'es allé vers d'autres choses? T'as-tu essayé en ligne aussi sur Arena, ces affaires-là?
Écoute, j'ai essayé en ligne. J'ai moins aimé ça un peu. J'aime le feel. Puis c'est un peu. Moi, je suis un joueur de poker aussi dans la vie. J'aime pas beaucoup jouer en ligne. J'aime ça jouer en personne. Parce que t'as l'aspect social. T'as l'aspect psychologique un peu aussi. T'as l'aspect. Moi, t'attaquer. Ah, oh, tu m'attaqueras pas, franchement. Là, je t'ai pas attaqué. Ça fait que t'as toute cette espèce d'aspect-là.
Faire pitié,
qui est fun à jouer.
Ben, effectivement. Moi, je suis bon d'en faire pitié.
T'aimes la politique autour de la table,
là. Je suis en train de me bâtir un deck de moderne bleu-noir. Il n'est pas tout à fait complet, mais je suis en train de me bâtir un deck bleu-noir dans l'abordable. Là. Mettons que j'ai pas encore embarqué des Snapcaster Mage et des affaires de même, là, mais c'est quelque chose d'intéressant. Le bleu-noir, je trouve qu'il y a une belle dynamique. C'est mes deux couleurs préférées. Fait que je suis en train de me bâtir ça tranquillement, pas vite. Mais sinon, c'est pas mal Commander. Ouais, je te dirais que j'aime. J'aime la dynamique de groupe. T'sais, j'aime ça jouer en face à face. J'ai fait du popper un petit peu aussi là, dans le. Il y a un club à Québec, l'Arène des Dieux, où est-ce qu'il y avait des soirées, j'ai fait des decks de popper, j'ai fait des drafts un peu aussi, mais je reviens tout le temps au Commander un peu parce que je trouve que dans la dynamique de groupe, Magic s'exprime bien. Puis dans le chaos aussi que ça peut engendrer, quand tu as des cartes auxquelles personne s'attend, puis là, il y a des espèces de nouvelles règles qui embarquent. Puis là, moi, ce que j'aime beaucoup dans Magic, c'est justement quand, justement, rien se passe comme tu t'attendais. Là, t'sais, puis c'est ce que j'apprécie. Puis c'est une dynamique que je vais trouver dans le jeu de rôle aussi. C'est-à-dire que souvent, tu prépares des plans, que tu sois joueur ou maître de jeu, puis soit les joueurs vont faire totalement une affaire en dehors de la traque, ou toujours. Toi, tu vas complètement décider d'aller ailleurs. Fait que moi, j'aime beaucoup la composante chaotique un peu là,
dans les jeux. Reste adaptable aussi, là, ça,
oui,
ça veut dire qu'il faut rester adaptable. Je t'écoute parler, t'es-tu plus DM ou plus joueur? C'est pas tout le monde qui est DM dans la vie, là.
J'ai commencé joueur, pas mal, puis j'aime beaucoup jouer. Et c'est récent que j'ai commencé à DMer. En tant que joueur, je me suis tout le temps dit que ça doit être le fun de DMer, tout ça, d'avoir le contrôle sur l'histoire, de raconter ce qu'on veut, puis de donner une chance à tout le monde de shiner un peu. Puis moi, dans la vie, je suis animateur de radio professionnel. Fait naturellement, aller vers le DM, c'est quelque chose d'assez normal aussi, tu sais, parce que tu deviens chef d'orchestre. Un peu en quelque sorte. C'est toi qui improvise un peu, qui planifie, qui prépare les choses principalement. Fait que pour moi, le switch est facile. Puis là, je te dirais que je découvre que j'aime peut-être plus DMer qu'être joueur. J'adore être joueur, parce que mais je peux être un joueur déplaisant pour un DM parce que j'aime ça justement complètement sortir des sentiers. Oui, des fois, tu sais, je me parle parce qu'il faut rester le fun, puis tu sais, faut pas faire n'importe quoi, mais tu sais, jouer des assassins drôles chaotiques evil, j'aime ça, là, tu sais, fait que des fois, des personnages un peu plus out of the box, puis commencer des espèces de side quests, splitter le party, récemment, j'ai un personnage... j'avais un ranger nain, qui s'est offert en esclavage à une manticore pour pouvoir espionner un camp de traite dans les montagnes. Fait que là, j'ai splitté le party, mais je suis resté à nettoyer le nid d'une manticore. Bref, j'aime bien ça, aller dans des affaires un peu funky. Là.
Ça répond. Ça répond aussi à mon autre question. Je me demandais dans quel setting tu es en train de jouer, mais là, si tu me parles de Ranger Nain, je pense qu'on est un petit peu dans le D&D classique. Il n'y a pas comme de c'est-tu plus Pathfinder, tes cinquième édition?
Cinquième, parce que je trouve que c'est une édition qui, puis encore une fois, ça va aller un peu avec ce que je fais présentement. C'est une édition qui est accessible. Puis moi, comme je suis un gars de radio, je parle au grand public. Fait que oui, J'aime ça parler à mes congénères nerds, c'est sûr, mais si ça reste une communauté qui est assez réduite nécessairement. Fait que, en voulant faire un podcast comme je le fais présentement, La Gueule du Dragon, je me suis dit comment je peux aller chercher des auditeurs qui écoutent Jean-Simon Buis à radio au jour le jour, parler d'actualité ou de sa vie ou n'importe quoi.
Juste pour faire une parenthèse pour nos auditeurs, tu es animateur au FM 93, qui est quand même une grosse radio à Québec, là, c'est des milliers d'auditeurs, là.
Oui, absolument. Oui, c'est à peu près 20 000 auditeurs au quart d'heure, là, plus ou moins. Là. Bon, c'est beaucoup de monde, mais nécessairement, c'est d'actualité, c'est du talk radio, c'est de la radio parlée. Fait que ma job, c'est parler, c'est d'ouvrir ma gueule et de parler essentiellement. Fait que je me suis dit, comment je peux trouver un moyen d'amener la dame de 44 ans qui m'écoute parler de Dieu c'est quoi l'après-midi, le jeune qui a jamais entendu parler de Donjons Dragons, la personne, tu sais, comment je peux amener ces gens-là à suivre une campagne de Donjons Dragons? Puis cet été, je me suis pitché dans le vide, j'animais le show du midi, puis je me suis dit, je vais essayer de DM'er un segment de Donjons Dragons en onde avec des collègues de travail qui n'avaient jamais touché un dé de leur vie. Fait que j'ai simplifié les règles à 100 000 à l'heure, genre juste des 6, puis c'est vraiment, vraiment basic, un des 20 à 1 à 10, tu touches, 11 à 20, tu touches pas, c'est vraiment le plus basic possible. Puis j'ai réussi à faire un segment live, puis finalement que la réponse a été polarisée, tu parles à tout le monde, tu sais, mais il y a assez de monde qui ont fait crime. Je suis surpris de ce que c'était. Puis, c'était niaiseux à mort comme campagne. C'était un combat contre un dragon et des références à l'actualité, c'était niaiseux à mort. Mais là, je me dis, crime, ça fonctionne, c'est drôle, puis si je vais chercher des gens qui jouent de façon sérieuse, que je crée une campagne qui est engageante, qui a des rebondissements. Tu sais, on est dans une époque où être nerd, c'est un peu cool. Tu sais, Game of Thrones, Skyrim, on rendu c'est populaire et cool. Hein, qu'est-ce que ça dit?
C'est l'âge d'or du nerd en ce moment.
C'est l'âge d'or du nerd, exactement. Fait que je me suis dit, regarde, moi, je vais utiliser ma notoriété, je vais utiliser ce que je connais comme connaissance. Puis je vais aller chercher des gens que ça leur tente de jouer. Je vais aller chercher des comédiens professionnels. Je vais aller chercher une compositrice musicale. Je vais aller chercher une illustratrice, un producteur. Puis on va faire de quoi qui va être davantage du radio-théâtre qu'une campagne de jeu de rôle, en quelque sorte.
Ça, c'est La Gueule du Dragon.
Oui, ça, c'est La Gueule du Dragon. Exactement, qui vient d'enregistrer ses 3 premiers épisodes samedi. On a canné les 3 premiers épisodes.
On va mettre ça dans les liens avec notre épisode. Là. Si vous voulez, je vais mettre La Gueule du Dragon en lien. Puis on va aussi mettre, parce qu'on a accès à ta fameuse game de donjon au FM 93. Là, on va le mettre aussi.
le projet pilote.
Le projet
pilote. Ouais, c'est le projet pilote, exactement. C'est ça. Donc, c'est ça. Le but est de rendre ça accessible au plus grand public. Puis éventuellement, justement, Critical Role aux États-Unis a été écouté 150 millions de fois. Ben, je me dis, pourquoi on n'est pas capable de répéter l'expérience en francophone? Moi, je pense qu'il n'y a rien qui arrête les rôlistes francophones de faire un projet qui est sexy, qui va parler à beaucoup de monde, qui va... Tu sais, puis honnêtement, moi, j'avais hâte de voir la dynamique avec mes joueurs. Comment mes joueurs vont embarquer? Ils vont-tu improviser? Et j'ai été flabbergasté samedi de l'aisance avec laquelle les personnages ont commencé à interagir, les directions,
ça,
où est-ce que c'est allé.
Ça, c'est le fun. C'est vraiment en tant que DM, que ta quest meurt à mort, puis que les motivations font quelque chose ensemble. C'est très intéressant. Moi, en fait, les jeux de rôle, je maintiens que c'est une des activités que tout le monde devrait faire. Je pense que c'est une des choses les plus pédagogiques par rapport qualité-prix. Je pense que ça peut même être une thérapie d'une certaine façon. Si quelqu'un est gêné ou blablabla, je t'encourage vraiment beaucoup dans ce projet-là. Je me souviens, hein, jadis, j'étais à l'université, puis j'avais flirté avec l'idée de faire une maîtrise dans les applications pédagogiques du jeu de rôle de table. J'avais comme réuni un dossier Antonin Artaud et tout le reste. Voilà. Si je parle de théâtre pédagogique, il va falloir aller avec Antonin Artaud. Non,
excuse-moi, c'est ma réaction naturelle à prendre Antonin Artaud. Moi aussi, j'ai fait...
Mais Jean-Simon, c'est vraiment cool que tu sois avec nous. J'aime beaucoup l'énergie, hein, on le sent. C'est de valeur qu'on ne voyait rien vraiment dans ton background. La semaine passée, on a eu Christopher Léonard. On a pu parler de ses boîtes de Magic, de où il serrait ses affaires. check tes flûtes. On va revenir en dernière partie d'émission parce que là, on va s'en aller vers le milieu à notre segment carte de la semaine. J'ai l'impression que c'est toi qui l'as choisi. Fait qu'on va encore être content de t'écouter nous parler de Magic. Mesdames et messieurs, vous êtes à Terrain Basique. Et la carte de la semaine est une présentation de l'Abyss, magasin de cartes sympathiques. Puis d'autres choses, hein, ludicité, on pourrait dire. Situé au 4490 Jean Talon Est, métro Saint-Michel. Donc, on écoute la bite à bonde, puis on en apprend sur la mystérieuse carte de la semaine de Jean-Simon Buir. On laisse un petit trou pour notre technicien pour qu'il le retrouve facile. Mais là-dessus, all-in, Jean-Simon, c'est à ton tour.
Fait que la carte que j'ai choisie, c'est un de mes commanders, d'un de mes decks, qui est Kalia of the Vast, qui est une carte foncièrement déplaisante pour à peu près tout le monde qui joue contre. Alors, c'est une des raisons pourquoi j'ai bâti un deck autour d'elle. C'est complètement cinglé ce qu'elle fait, cette carte-là. Pour 4 de mana, une fois que tu l'as casté, après ça, à chaque fois qu'elle attaque, tu peux envoyer sur le battlefield. Ouais, exactement. Un dragon, un ange ou un démon sans payer son mana cost. Fait que honnêtement, c'est absolument plaisant de bâtir un deck autour de Kalia, qui a aussi une histoire géniale. Moi, j'aime aussi son histoire là-dessus parce que dans le fond,
on va en parler.
Absolument.
Non, je veux qu'on parle du deck en premier là.
Mais sinon, c'est quand même pas pire le fait qu'elle soit flying puis que son pouvoir trigger quand elle attaque, ça lui donne un petit pouvoir d'évasion qui peut l'aider à revenir le tour d'après.
Parce qu'elle est juste 2-2, là. C'est pas.
Ça meurt facilement. Musclé, mais elle est flying, Jason. Écoute, elle aurait pu c'est pas ça. Être flying, t'aurais dû chialer pareil.
Oui.
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr.
Fait que le deck que j'ai bâti autour, là, vous voyez qu'il y a une carte illégale, il faut que je change, mais Yona Shield of Emeria qui est juste chienne. Je sais pas si ça a été récent qu'ils l'ont enlevé de Commander, mais effectivement, elle était gossante. Quelqu'un qui joue monocouleur, puis tu castes Yona sans payer le mana cost de 9, puis ça fait en sorte que tu peux pas caster de spell.
Elle a été bannie, Yona?
Ouais, banni de Commander. Fait que ça, il va falloir que je la change dans mon deck, là. Mais outre...
Shield of Emeria, hein? 6 colorless, 3 blancs, un 7-7 flying. Quelqu'un rentre sur le battlefield, choisit une couleur, puis tes adversaires peuvent pas caster des spells de cette couleur-là. Je vois que t'as beaucoup de RAM. Pour ceux qui sont curieux, on va mettre le deck dans les liens de l'émission. 14 mana rock.
Si oui, absolument. Pour essayer de rentrer Kalia le plus rapidement possible. Mon objectif, c'est de rentrer Kalia rapidement et ensuite, à chaque fois, attaquer pour rentrer mes grosses patates, là, mes anges, mes démons, mes dragons, le plus rapidement possible. Et l'objectif est d'arriver éventuellement avec un Armageddon ou encore un Boom Bust qui va faire en sorte que je vais détruire tous les lands qui sont sur le jeu, enlever toute mana à mes opposants. Moi, j'en ai plus besoin de toute façon parce que j'attaque avec Kalia, que je vais essayer de protéger avec mes Lightning Greaves, par exemple, pour m'assurer que ou Swift Foot Boots, m'assurer que personne ne fait. Ouais, exactement. Puis après ça, ben là, je rentre mes bébites, puis j'essaie de détruire les lands le plus rapidement possible. Quand ce n'est pas contré rapidement par un deck bleu, par exemple, qui a plusieurs counterspells qui vont empêcher Kalia de rentrer, qui va, honnêtement, quand les cartes sont en ma faveur puis que ça va rapidement, sérieusement, c'est dur de faire de quoi. J'ai vu des gens sacrés en masse contre ce deck-là. Parce que
bien sûrement. Si tout va bien... Il y a quand même pas mal d'anges blancs-rouges qui peuvent, ou même de dragons juste rouges qui peuvent te donner une autre phase d'attaque après en entampant toutes tes shit. Fait que tu peux le refaire une autre fois. T'as-tu des fois l'impression d'être un peu cruel? T'es-tu un joueur cruel?
Oui, je suis un joueur cruel, absolument.
Oui.
Ça
s'assume. Dans ta liste, il y a Sire of Insanity. Ça aussi, c'est super chiant de sortir ça vite.
At the beginning of each end step, each player discard his hand.
C'est déplaisant. Wow.
Ça, c'est plate, là.
c'est dans le domaine du post-mat.
Moi, j'adore ça. Donc, les gens, ils sacquent. Mais toi, dans le fond, la faiblesse de ton deck, c'est parce que tes affaires, ils coûtent cher. J'en remarque ça, là.
Oui, ben, toutes les grosses créatures coûtent cher. Donc, le deck est dépendant de Kalia. Le deck
est dépendant. C'est de les cheater avec.
C'est ça, avec c'est de les cheater. Fait que le deck est très dépendant de Kalia. Mais pour l'avoir essayé, avoir joué avec plusieurs fois, honnêtement, un deck qui me peut me faire très peur, c'est un deck bleu mono avec beaucoup de counterspells. Quelqu'un qui va contrôler mon entrée en jeu de Kalia, qui va me nuire constamment. Sinon, bataille head-to-head, un deck aggro, une affaire de même, honnêtement, pas de misère ben avec ça. Voilà. C'est vraiment un deck, l'objectif c'est Total Annihilation le plus rapidement possible. C'est vraiment mon deck que je sors quand je file pas trop subtil, puis ça me tente juste de d'être violent et méchant.
T'as même animé Dead là, pour
genre comme avertir, ok, je sors mon deck de Kalia, fait que checkez vos flûtes, là, le monde ils savent, ils le voient venir.
Oui, absolument. Là. Puis souvent aussi, moi ce que j'aime bien faire, c'est initier des gens à Magic, j'ai bien du fun avec ça. Là, je le fais moins compte tenu de la COVID, évidemment, mais tu sais, avec mes decks, par exemple, genre du monde, je vais faire jouer mes decks les uns contre les autres, tu sais. Puis mes decks sont assez balancés, là. Je sais pas si on va en parler plus tard un peu de mes autres decks, mais,
oui, oui.
Mais j'ai des decks super balancés qui peuvent faire en sorte que, justement, Kalia gagne pas à tous les coups, là. Notamment, mon bleu puis mon rouge, honnêtement, ils gagnent souvent contre Kalia. C'est assez even, ces trois decks-là. Quand tu mets head-to-head, là, tu peux arriver à des résultats intéressants. Mais c'est ça. Mais le bleu, qui est ma couleur de prédilection, c'est l'ennemi juré de ce deck-là, honnêtement. Ben
le bleu, c'est l'ennemi de tout le monde, là.
Oui, absolument. C'est pour ça que je l'aime aussi. Mais...
c'est ça. Hey, check ça. Le Blood Gift Demon, at the beginning of your upkeep, target player, draw a card and lose one life. Fait que tu prends toi-même.
Bon, c'est standard.
C'est ça. Exactement.
C'est vraiment standard. Ouais, t'as pas mal de card draw, le Dragon Mage.
Moi, le Dragon Mage, ça, c'est un gros fan de Dragon Mage.
C'est chaque fois qu'il fait du dégât, il fait un Wheel of Fortune.
C'est ça, exactement.
Fait que Kalia of the Vast.
Kalia of the Vast, je vais faire la petite série sur le Sunday. Hey, tu connais son histoire, Jean-Simon, vas-y donc.
Oui, absolument. Ben, en fait, c'est une fille qui est née, elle s'appelait Lia, puis c'était la fille d'un fermier. Et finalement, là, à un moment donné, son village a été détruit par le démon Nepharox. Et puis là, elle a réalisé qu'elle avait des pouvoirs pour lutter contre lui. Et dans le fond, elle a réussi à détruire le démon, mais le dragon a tué toute sa famille au complet. Puis quand elle s'est réveillée, elle s'est sentie complètement détruite psychologiquement, complètement en détresse totale. Puis elle a juré qu'elle allait tout détruire, puis contre toute personne qui allait s'élever contre elle, qu'elle allait susciter les masses des enfers, des cieux, tout ça, contre tout ennemi. Fait que c'est une espèce de destin tragique un peu, puis qui fait en sorte que, justement, ça fit avec ce qu'elle fait essentiellement. Elle pète sa coche, puis elle summon des dragons, des anges, puis des démons. Ben oui.
Ouais. Fait que c'est comme une vengeance personnelle envers toutes.
Puis elle, ouais, elle a comme des paires d'ailes de dragons, puis d'anges, puis de démons en arrière.
Exact.
Elle vient du... en fait, c'est sur le plan de... allez voir notre épisode sur Shards of Alara. Là. Elle était sur le plan de Bent, qui était le plan bleu, blanc et vert. Puis quand il y a eu le conflux, c'est-à-dire quand le plan de Grixis est venu se fusionner au plan de Bent. Grixis, c'est un plan qui a beaucoup de démons. Kalia of the Vast, là, s'est retrouvée un peu comme... c'est de là, comme ça que les démons se sont ramassés à envahir son village. Puis si je me souviens bien, dans le fond, c'est que... parce que sa carte, c'est après plusieurs années après l'histoire, puis elle est devenue un peu comme le... Vu que le plan de Bent a fusionné avec le plan de Grixis, puis que le plan de Bent, c'est le plan des anges, le plan de Grixis, c'est le plan des démons, est devenu un peu comme le overlord de la place. Là. Tu sais, c'est moi qui vous bosse, les dragons, les démons et les anges, vous travaillez pour moi maintenant.
C'est ça.
C'est un résultat du conflux.
Tranquille.
Mais sa haine, c'est un résultat de ses émotions.
Ouais, voilà.
c'est important. Faut pas nier ça. Faut qu'elle se responsabilise si elle veut passer au travers du deuil à un moment donné, je pense. T'es-tu pour ou contre les deuils, toi, Jean-Simon?
Ben, généralement pour.
Okay, c'est bon,
c'est bon de passer à travers en général. Ouais. J'aurais été surpris si je te disais le contraire.
peut-être qu'on aurait eu à jaser sur pas mal d'affaires.
Il aurait fallu qu'on argumente un peu.
Et voilà. Ben, sinon, merci beaucoup pour cette carte de la semaine. On va aller en dernière partie de l'émission. J'espère que tu te sens en forme, Jean-Simon, parce que c'est pas mal toi la star encore. Fait que merci d'être avec nous autres. Écoutez tout le plaisir. Beat à Bone, on se reparle en dernière partie d'émission. Ça va, Lompré, toi?
Ça va, ça va.
OK, c'est bon.
Plus de bateau.
On a les quatre decks de Commander de Jean-Simon, vous voyez sur l'écran.
Exact. Exact. Le Avacyn, je l'ai vendu par contre, mais j'ai joué avec beaucoup, là, mais je me suis tanné de taxer tout le monde. Fait que,
bon, lequel tu veux nous présenter là, qui vaut la peine selon toi?
Norin puis This Is Hold Up sont bons. Là.
Ah, Norin. Ça, c'est, on a parlé il y a deux semaines. Ben oui, Norin, c'est une créature légendaire qui vient de Time Spiral, un rouge pour un 2-1. Human Warrior, quelqu'un joueur fait un spell ou une créature attaque, tu enlèves Norin de la game, puis il retourne en jeu under its owner control at the end of turn. Fait que dans le fond, il blink. Fait que ça, c'est tu veux l'utiliser pour triggerer des Enter the Battlefield effect
contre ça. Alors, quand je t'ai tombé là-dessus sur Tap-Tap en premier, je me suis dit qu'il y avait un potentiel de chaos absolument génial avec Norin. Puis comme je vous l'ai dit, tout ce qui est chaotique m'apparaît toujours plaisant. Alors, je suis allé chercher à peu près tout ce qui était carte chaotique rouge, pas possible, avec des règles bizarres comme Thieves Auction, puis des affaires comme ça pour rajouter de la saveur au deck. Le tout avec également des différentes cartes qui vont faire des Enter the Battlefield effect, comme par exemple Perforos, God of the Forge, qui va faire du burn sur tous les joueurs à chaque fois qu'une créature rentre sur le battlefield.
Ouais, il fait deux dégâts à tous les joueurs autour de la table.
À tous les joueurs. Alors, ça me donne une idée. Il est indestructible. Fait quand je réussis à rentrer Perforos avec Norin, on est déjà bien avancé dans la marche vers la victoire. Puis il y en a un paquet d'autres, des cartes là-dedans que j'ai fait en sorte pour que ce soit que des Enter de Battlefield et des cartes chaotiques aussi pour la saveur en tant que telle. Fait qu'il y a souvent des règles alternatives qui vont être rajoutées avec Norin. Puis les
il y a beaucoup d'enchantements dans ton deck hein, pour un deck de rouge. Oui.
C'est ça. C'est pas un deck rouge qui est traditionnel. J'aime pas les choses traditionnelles non plus. Donc, pour ça, j'essaie d'expérimenter différents trucs. Puis ça fait en sorte que, tu sais, par exemple, c'est Gratuitous Violence qui est un enchantement pour 5 mana, 3 rouges, 2 colorless. If a creature you control would deal damage to a creature player, it deals double that damage to the creature player instead. Donc, il double le dommage dans le fond de toute créature qui va faire du dommage. Fait que ça rajoute des règles qui vont profiter ou nuire à tous les joueurs, mais ça rend le tout un peu chaotique et imprévisible. Puis pendant ce temps-là, ben moi, j'essaie de rentrer notamment Perforos, God of the Forge. J'ai des créatures aussi comme des créatures ultra pratiques aussi comme Krenko Mob Boss qui va servir avec des Red Goblins qui vont rentrer. Puis ça, par la suite, par exemple, si je réussis à triggerer Krenko, que Perforos va nécessairement encore plus faire de dommages aux autres joueurs. Fait que ça va tout s'additionner. Fait que c'est très déplaisant, ça aussi, comme deck, mais plus drôle peut-être que Kalia. Je dirais que c'est déplaisant drôle. Parce que justement, il y a
La variance ajoute plus de.
Ouais, c'est ça.
Là, tu deviens le. De déplaisance, j'aime bien gros.
Tu deviens pas la cible de tout le monde. Je vois que moi aussi, je suis un joueur de mono rouge en Commander, puis je joue aussi Smoke. Ça, puis okay. Ça là, pour nos auditeurs, vous voulez jouer ça quand vous jouez du rouge, c'est génial. Enchantement 2 rouges, ça vient de Alpha. Il a été réimprimé plein de fois, là, fait que c'est autour de 4$ pour l'avoir en average. Ouais. Un joueur, tous les joueurs autour de la table ne peuvent pas untaper plus qu'une créature à leur untap phase. Ça ralentit beaucoup la table. Fait que quand t'es la cible de tout le monde, là, moi je suis mono rouge avec Torban, puis c'est vraiment bon Smoke là.
Ça, j'ai remarqué, il y a beaucoup de cartes stacks, tu sais, qui empêchent de jouer.
Donne un exemple.
Static Orb.
Quoi? Static Orb. Ok, oui, 3 colorless. Player cannot untap more than 2 permanent. Oh, pour ralentir le monde, là. Oh, ouais, je vois ça, là.
Ah, ouais, c'est ça.
Mixstone, les créatures qui ont un power 2 ou plus peuvent pas untaper. Ça, c'est bon pour juste un colorless, là.
Ça, c'est une de mes cartes préférées, moi, ça.
Ah, ouais, Mixstone, moi, je la joue dans plusieurs formats aussi, là. Crawl Space dans le même style, ça aussi je joue ça en Commander. 3 colorless. No more than. Il n'y a pas plus que 2 créatures qui peuvent attaquer à n'importe quel combat, donc ça affecte tous les joueurs autour de la table. Tu joues Citanule Flûte. Oh, t'es mon coquin toi. 5 colorless pour Search your library for a creature card with converted X ou moins. C'est un démonique tutor sur un bâton, là. C'est pas mal le fun.
C'est ça. Non, j'essaie
c'est
de...
Tu vas chercher généralement avec ça?
Souvent, je vais aller chercher un Enter the Battlefield effect, là, en général, parce que souvent, j'ai assez de trucs chaotiques en main pour m'amuser puis en masse, mais souvent je vais aller chercher mon Perforos justement là, si je ne l'ai pas là. Parce que une fois que Perforos est en jeu, souvent là, j'ai pas mal l'avantage pour la suite là.
Fait que c'est souvent ce que je vais aller. Des snow covered mountains, j'ai-tu manqué quelque chose?
Il y a une carte seulement qui l'utilise, puis là il faudrait que je retrouve c'est quoi. J'ai une carte qui sert exactement à ça, puis ça
prend... avec le Jokelops peut-être.
Ouais, c'est ça. Puis, mais il y a vraiment une carte. Mais là, écoute, faudrait que je la retrouve exactement.
Rapport
avec ça. Mais oui, je l'ai. Puis pour la flavor, je les ai toutes achetées en Snow Covered Mountain. Là. Fait que dans cette deck-là, c'est toutes des Snow Covered Mountain. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, ben, c'est ça. Je suis un peu.
C'est cool, le Mog Infestation.
Ah oui, Mog Infestation. Un colorless de rouge détruit toutes les créatures d'un target player. Pour chaque créature qui vont dans le graveyard, tu mets deux gobelins under the player.
Fais ça sur tes bébites.
Ouais, fait que tu recycles tes propres créatures dans le fond pour faire triggerer ton Purphoros. Mais corrige-moi si je me trompe, on dirait que ton finisher, c'est Purphoros.
Oui, c'est pas mal.
Tu as un plan B?
Le plan B, c'est que il y a d'autres effets Enter the Battlefield qui font en sorte aussi que écoute là, faudrait que je te retrouve de d'autres affaires, mais souvent là, je vais rentrer
comme
d'autres.
War Storm Surge.
Oui, par exemple, ça peut aider aussi. Après ça, avec aussi là, toutes les autres. En fait, je vais essayer de profiter du chaos. Lorsque j'ai pas Perforos, je vais essayer de profiter du chaos pour aller à gagner par d'autres moyens, envoyer des affaires. Tu sais, regarde, je vais donner un autre exemple de chaos que je vais utiliser, des affaires un peu absurdes, là, comme Goblin Game. Là. Je sais pas si vous êtes familier avec cette carte-là. Là.
Oh, ouais.
Tous les
ça
joueurs
cachent, de la semaine.
Cache au moins un objet. Après ça, tous les joueurs doivent les révéler. Puis chaque joueur perd de la vie égale au nombre d'objets qu'il avait dans sa main. Puis la personne qui en révèle le moins perd la moitié de sa vie. Bref, je trouve ça vraiment amusant. Ça fâche les gens aussi. Mais ce deck-là a gagné contre Kalia à plusieurs reprises, notamment quand il y a Perforos. Mais franchement, là, c'est t'as des affaires comme Decree of Annihilation qui va enlever tous les artefacts, les créatures, les laines, les mains, les graveyards du jeu.
Ça reset la game. T'as-tu une anecdote sur Goblin Game? On se demandait la fois qu'on l'avait eu en cas de la semaine, les possibilités avec. T'as-tu une anecdote avec à nous raconter?
Ben, ce que je remarque, c'est que la plupart des gens, ils camouflent le moins d'objets possible. C'est vraiment ça. En tout cas, quand je l'ai joué, là, à chaque fois, le monde, ils mettent vraiment la moins de choses possible. Mais fait que tu te ramasses souvent avec des égalités avec des gens qui ont juste mis un objet. Juste cacher un objet. Fait que, tu sais, le monde, il risque pas beaucoup, tu sais. Puis, c'est ça que je remarque souvent par rapport à ça. Moi, j'aurais tendance, au contraire, à miser gros, c'est ça, pour pas me ramasser avec celui qui en a le moins. Mais, les gens sont pas, ils risquent pas beaucoup dans. Puis ça, je trouve que c'est un peu caractéristique. Je trouve qu'il y a tout le temps des similitudes dans la façon que les gens jouent, puis la vie en général. Mais, tu sais, les gens sont pas des grands preneurs de risques en général, tu sais. Fait que quand tu es confronté à une carte comme celle-là, ça va être souvent transparent de comment la personne va agir dans la vie en général.
Ah, ça, c'est rare que le monde soit là. Ouais,
c'est ça.
Ouais.
On le voit.
Moi, tu sais, j'ai tendance à jouer assez large au poker, par exemple. Pas niaiseusement, mais tu sais, je vais essayer d'être agressif puis de tout le temps forcer les joueurs à rester là s'ils veulent me suivre. Ben, t'es obligé de miser pas mal, quitte à prendre des risques un peu plus. La plupart des gens sont plus conservateurs puis vont essayer de rester. Puis tu sais, à Magic, c'est un peu la même chose. Fait qu'à Goblin Game, souvent, tu vas avoir, mettons, 5 joueurs autour de la table. T'en as 3 qui ont mis un objet puis un autre qui en a mis 2, là, tu sais. Fait que c'est ça que je remarque beaucoup avec cette carte-là, par exemple.
Toi, tu es du genre, tes créatures, tu bloques pas avec, là. Tu descends ta vie pour placer ton board, là.
Ben, exactement, c'est ça.
Jason.
Ben oui, je joue même aussi, j'adore ça. C'est comme ça qu'il faut jouer à Magic. Prenez note, les joueurs blancs.
Hey, je veux juste pas l'oublier. Jean-Simon, écoute, t'es à la radio, tu rejoins plusieurs personnes et ces temps-ci, en tout cas, nous ici, de notre bord, on est quand même un petit peu impliqués à essayer de mettre un frein aux idées creuses que certains appellent les éveillés ou les conspirationnistes. Ouais. Et j'aimerais ça que tu passes un message à grande échelle de ma part à toutes ces personnes-là qui se considèrent éveillées. J'aimerais ça que tu leur demandes d'arrêter de filmer à la verticale. Ça me tape ses nerfs que toute la gang y filme à la verticale. Juste si on pouvait, comme tout le monde ensemble, on arrive en 2020. Ben, tu vois, il y a si plus de Jean-Simon, tout le monde est heureux. As-tu vu
le message est passé, hein, c'est ça?
Non, mais. Tu la voyais pas venir, celle-là?
Non. Mais écoute, les fameux éveillés, on pourrait en parler longtemps, mais ça fait des mois que j'étais avec eux autres. Si tout le monde prenait, tout le monde se calmait les nerfs, jouait Magic ou à Donjon Dragon, le monde.
Shit, oui. Hein.
Un message d'espoir.
Je veux dire, on peut faire une quest puis aller dans les tunnels QAnon pour se délivrer des enfants, puis là, brosse ton dé, tu fais l'initiative contre le démocrate pédophile.
Ouais, c'est ça. Mais oui, fais une campagne QAnon, ça te tente, tu sais, c'est ça. On pourrait demander.
C'est sûr que l'adrénochrome, ça rend berserk puis tu gagnes ton énergie.
Ouais, c'est ça. Il y aurait du potentiel pour une campagne complotiste. Pour vrai, ça pourrait être drôle.
Ben oui. Avez-vous déjà joué à Paranoia?
Non.
C'est vraiment cool.
C'est un jeu de rôle où est-ce que tout le monde est comme des espèces de clones dans un espèce de 1984 un peu désaxé. Puis dans le fond, le DM, c'est le computer, c'est le great computer qui gère tout ça. Tout le long de la game, le monde se passe des petites notes au DM. Fait que tout le monde joue un peu un contre l'autre, mais ensemble, c'est très drôle.
Le Paranoia, les règles, là, c'est... Paranoia, les règles, c'est... dans la société du setting, c'est... T'as pas le droit... Les clones sont interdits, les sociétés secrètes sont interdites. Le problème, c'est que tous les joueurs sont des clones et doivent faire partie d'une société secrète.
Puis en fait, là, t'as triché parce que t'as pas le droit de connaître les règles.
Ah oui, tu n'as pas le droit de connaître les règles.
Tu connais les règles, tu triches.
Hein? Voulez-vous qu'on parle d'un autre deck? On se lance?
Oh oui, on a le temps certain.
Ah oui, il y avait un autre deck
de notre invité. Mets combien de temps, toi, à monter un deck? D'habitude, t'as-tu comme un flash à partir du Commander, puis tu construis autour?
Soit une thématique, là, par exemple, celle dont on va parler là, qui est... c'est Empress Galina, et c'est un deck que j'ai appelé This is a Hold Up, parce qu'essentiellement, c'est un deck où est-ce que je vais voler tout ce qu'il y a sur le jeu. L'objectif, c'est carrément de gagner avec les armes des autres, tout simplement. Empress Galina, c'est une créature légendaire, 3 de mana colorless, 2 bleus, et là, quand tu payes 2 bleus puis que tu la tapes, tu gagnes le contrôle de target legendary permanent. Là, vous allez me dire, il n'y en a pas tant que ça, des legendary.
Magic. Tu peux toutes les rendre légendaires assez facilement, c'est ça que tu fais, là, l'affaire du miroir, puis tout. T'es cruel, exact. Dude. Mets ta main comme ça, puis donne une tape dessus.
J'ai les Line of Singularity, qui est une carte que lorsqu'elle est dans ma main de départ, je peux jouer sans payer son mana cost dès le début du jeu, et elle rend toute légendaire. Alors, ça, c'est absolument génial. Fait que, tu sais, quand tu calcules sur 100 cartes, tu sais, j'ai quand même 7 cartes au début. J'ai presque 10% de chance d'obtenir cette carte-là dans ma main de départ. Quand c'est le cas, honnêtement, ça part mal pour les autres, honnêtement.
Tu as un Mystical Tutor aussi pour aller la chercher, là?
Oui, absolument. Mais par contre, là, il va falloir que je la paye avec son mana cost parce que c'est juste au début de la game que je peux la jouer sans payer son mana cost parce que ça, c'est vraiment rapide. T'sais. Quand même 4 de mana, je mets ça premier tour. Après ça, je casse rapidement Empress Galina, puis là, je commence à voler. Mais sinon, à peu près toutes mes cartes visent à voler quelque chose si j'ai pas mon commander en jeu, que ce soit Confiscate, que ce soit Mind Control, que ce soit, tu sais, c'est tout Treachery. Toutes les cartes à peu près vont
servir les cartes.
À voler les cartes des autres, les créatures et ainsi de suite. J'essaie de m'assurer d'aller
chercher le maximum d'affaires. Chez nous, on appelle ça jouer au judo. Parce que tu utilises la force de l'autre pour le swinguer.
Voilà, exactement. Fait que c'est très bribery. Bon, bref, c'est toutes des cartes qui m'amusent beaucoup parce que c'est drôle de voir la face de quelqu'un qui se fait voler ses affaires les plus précieuses. J'aime beaucoup jouer notamment contre des gros decks verts, ramp avec des grosses bibittes. Ça, c'est vraiment le fun. Quand juste un deck-là contre un gros deck vert, c'est absolument merveilleux.
C'est quoi ta meilleure histoire de vol à date?
Écoute, hey, je n'ai pas une en tête comme ça, mais tu sais, c'est tu voles tout, c'est que le monde casse les grosses patates. J'ai déjà volé des Praetors, tu sais, des Praetors noirs, des Praetors verts. Tu sais, j'ai déjà volé des grosses bébites là, tu sais, qui n'ont pas de bon sens. J'ai quand même quelques créatures, pas beaucoup, là, que je garde. C'est comme Consecrated Sphinx, Ginge Taxias, Corogre, justement, le Praetor bleu. Tu sais, j'ai quelques créatures, tu sais, Talran, Sky Summoner, quand même, qui peuvent être utiles.
Les cartes de pas un Agent of Treachery?
Je l'ai-tu, ça? Non, je l'ai pas, hein.
Non, elle l'a pas, mais c'est une carte récente. Je pense que ton decklist ici est plus vieux que l'année que cette carte-là a été imprimée.
Très bien. Agent of Treachery, ça donne de l'été passé. À voler des affaires aussi, c'est pas que seulement que l'autre l'a pu, c'est que toi tu te ramasses avec.
C'est ça.
C'est plus un moyen. Ça là, fait que...
Exact. Fait que ça peut
un match de 4 points, Tommy.
Ouais, mais c'est encore.
Un match de 4 points. mais je remarque aussi, t'as pas mal de counterspell like.
Oui, absolument aussi. Parce que ça reste un deck bleu, puis je veux garder les options.
On peut-tu. Se répéter à quel point Rhystic Study en Commander, c'est cool. Un enchantement, deux colorless, un bleu. À chaque fois qu'un adversaire joue un spell, tu vas piger une carte à moins qu'il paye une taxe de un colorless, ce que les gens font jamais. Fait que tu te ramasses à piger plein de cartes.
22 pièces.
C'est absolument merveilleux.
Ah ouais, cette carte-là, c'est fantastique, là. Puis dans le même style, moi, que j'aime beaucoup, le fameux Capsize qui vient de Tempest, un colorless 2 bleu, tu retournes à un permanent, fait que ça peut être des Planeswalker ou des tokens, whatever. Puis il y a Buyback 3. Fait que si t'as 6 laines, tu peux le... à Commander, c'est facile là, d'avoir 9 mana en jeu. Fait que tu peux faire des Capsize 3 fois là, dans ton tour. Cette carte-là, là, c'est juste une pièce, fait que c'est facile à jouer. Ça, si vous jouez du bleu, c'est vraiment le fun.
C'est ça, puis j'ai Spellbook dans les artefacts aussi, qui coûte zéro, puis qui fait en sorte que j'ai pas de maximum end size, qui fait en sorte que là, je vais essayer de piger, me ramasser un paquet d'affaires, le plus de possibilités possibles. Et c'est ça, très, très plaisant aussi, assez cruel aussi, mais bon, moi, un de mes défauts, c'est en Commander, comme vous avez vu avec mes decks, c'est que souvent, les gens vont se liguer rapidement contre moi. Fait que ça rend les choses plus compliquées un peu. Fait que c'est pas des victoires assurées, bien entendu, comme c'est jamais le cas avec Magic. Puis ça rend un peu, tu sais, nécessairement... C'est ça. Là, les gens trouvent ça que la cruauté, je pense, c'est un bon terme pour certains de mes decks.
Faut que tu fasses travailler la diplomatie.
As-tu déjà capsize un de tes contrôles Magic pour le remettre ailleurs?
Oui, absolument. Oh, oui, fréquemment. Fait que j'essaie de jouer. Mais c'est pour ça que j'adore le bleu, c'est parce que c'est toutes les possibilités que ça rajoute. C'est ça le bleu, dans le fond, c'est les possibilités, tu sais. C'est possibilités. C'est quoi la stratégie la plus complexe que je peux mettre en place, même si ça prend du temps. Même si c'est plus long un peu que les autres couleurs, c'est pour ça que c'est ma couleur favorite, le bleu. J'aime ça être patient, ça me dérange pas de me faire attaquer un peu au début, de pas avoir grand-chose sur le, tu sais, pendant que je prépare mes affaires. Puis là, à un moment donné, bang, ça rentre, puis ça s'enchaîne, puis la personne en face est pas contente, est triste, et détruite psychologiquement.
Solide. Écoute, on a-tu encore un dernier deck avant de laisser notre invité aller?
Ben, on a fait le tour de ce qu'il m'avait envoyé, là.
Oui, c'est ça. Ça, c'est les trois decks de Commander que j'ai présentement. Là, je caresse la possibilité de me bâtir un deck Infect noir.
Commander?
Oui. Avec un deck Infect. Avec Skitterix, là, mais c'est ça. C'est pas encore fait, là, mais j'aimerais ça jouer noir. Mais
la cruauté n'a aucune limite, c'est ça que tu es en train de nous dire.
est-ce que tu as joué à... Nous, on a commencé ça, là. Moi, depuis avril, le début de la pandémie, là, on a commencé à jouer à Magic sur des webcams.
Ah oui!
Puis Commander, ça va bien là, sur Whereby. Là, tu peux être les quatre écrans.
OK.
Ça va mieux que sur Zoom. Là. Whereby, c'est un logiciel. Puis
Spell Table aussi, je pense.
Spell Table aussi qui fonctionne. Puis tu peux avoir là, les quatre, tu sais, sur ton écran d'ordinateur, ouais. Tu vois les autres. Puis c'est super accessible. Moi, j'utilise mon téléphone avec une application qui s'appelle Irune qui transfère, dans le fond, la webcam. Utilise la caméra de mon téléphone. Puis j'ai acheté une affaire que je pensais... Tu sais, que tu dis la pandémie, là, comment ça change les vies. Là. Le truc que je pensais jamais acheter dans ma vie, un selfie stick. Parce que les selfie sticks, ils ont un trépied.
Ouais.
Fait que là, je mets mon selfie stick au-dessus de mon tapis de jeu, là, puis ça filme mon deck. Écoute, j'ai joué avec Lompré la semaine passée, puis...
Le Lompré, là?
Ouais, j'ai gagné deux games!
Bravo! Mais
on va commencer ça bientôt, au mois de novembre, là. On veut setter des soirées de multiplayer par webcam, fait que tu te joindras à nous...
Ben là, j'espère que vous allez diffuser ça.
Ben oui, je l'ai fait déjà. Là. J'ai diffusé tous mes duels de tournois, là, mais là, pour le multiplayer, c'est un autre.
Ça, c'est sur notre canal niveau, YouTube. Là. Mettez ça en note.
Ouais, canal YouTube de Terrain Basique, on les upload là.
Et voilà. Ben, je pense qu'on est rendu au bout de l'émission. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Jean-Simon, ça a été un plaisir de te rencontrer. Je te souhaite bonne chance dans tes projets. On rappelle, c'est La Gueule du Dragon. Ça,
ouais.
La Gueule du Dragon, c'est tout récent. Puis, ben voilà, merci beaucoup de l'aventure. Merci à toi aussi, Lompré.
Ça fait plaisir.
Peut-être une dernière phrase de sagesse pour nous aiguiller vers la nuit la plus longue et au travers.
Si vous faites de l'apnée, allez vous faire checker.
Très, très bien dit. Et ça l'a impressionné, Emmanuel, en dessous. Merci, Emmanuel.
Je peux pas suivre ça.
Non, ça va être difficile. Et merci à Jason aussi. Hey, à Red. Sinon, ben, merci à Bone qui nous fait des beats, à Martin qui nous fait le montage. Merci à Labisse qui nous supporte. Et merci, il y avait une dernière affaire. Non, je pense que c'est tout. À ma mère, hein, ça fait longtemps. Salut, maman. Hey, sinon, on est disponible sur Spotify et...
YouTube.
On a de la merch en ligne. Il me semble qu'il y a quelque chose que j'oublie. Hein. Tout bad. Nah. Pour l'instant, je vous souhaite d'être le moins possible Manascrew. Et mon nom était Tommy Goddard.
De la famille H2O Web Media.